Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Ce regard historique, politique, voire géopolitique de la Terre, c'est ce que propose dans son dernier ouvrage « Terre, pouvoirs et conflits », une agro-histoire du monde parue aux presses de Sciences Po, Pierre Blanc. Pierre Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à Bordeaux, sciences agro et à Sciences Po Bordeaux, également chercheur au laboratoire Les Afriques dans le Monde et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. C'est un véritable tour du monde que vous nous faites faire dans cet ouvrage, tour du monde de la question foncière que vous placez au cœur des logiques de pouvoir, nous faisant ainsi revisiter l'histoire contemporaine avec cette grille de lecture somme toute assez inédite. Les exemples sont évidemment très nombreux, fascisme européen, dictature latino-américaine, révolution chinoise, guérilla colombienne, autant d'événements, dites-vous, qui ont eu pour arrière-plan une terre mal distribuée. Les États-Unis dans la guerre froide, la Russie aujourd'hui, la Chine ou les pays du Golfe qui investissent dans le monde, autant d'exemples de pays qui expriment leur volonté de puissance et de sécurité par une emprise foncière, ou encore des peuples sans État et qui, en tant que tels, sont dépourvus de toute reconnaissance. Kurdes, Tibétains, Palestiniens, Ouïghours, on pourrait aussi citer les Pachtounes aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan. Alors, pour commencer, j'ai cette question sur les raisons de ce livre, Pierre Blanc. Est-ce que c'est l'urbanisation de notre monde qui vous a incité à l'écrire, cet ouvrage, urbanisation qui nous ferait oublier les liens entre terre et pouvoir ?
Je crois que ce qui m'a poussé à faire cet ouvrage, c'est une réflexion au long cours qui, sans vouloir faire dans la généalogie, me ramène peut-être à des origines familiales, étant d'un monde agricole. Et très tôt, j'ai entendu parler de cette histoire politique de la terre, finalement, même si ce n'était pas formulé en ces termes. Dans une région, le sud-ouest, qui est la mienne, où cette question
de la
sud-ouest de la France, où cette question a été une question politique assez centrale, en tout cas à micro-échelle dans ma région. Donc c'est une origine, ce sont des voyages, une origine avec donc une acuité peut-être sur ces questions, des voyages en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Europe, ailleurs, qui m'ont fait croiser cette dialectique entre terre et politique. Et puis, ce sont des recherches sur une région que j'affectionne, le Moyen-Orient, où l'on passe assez souvent sous silence cette dimension foncière, le soubassement foncier de cette géopolitique, qu'on surinvestit avec le facteur religieux, pétrolier, mais on oublie que l'histoire pas si ancienne a mis en lumière le lien entre terre et pouvoir. Et puis, il y a aussi une formation d'agronome qui s'est doublée d'une formation de géopolitologue ou de géopoliticien, qui fait que je trouve intéressant de croiser la réflexion sur la terre et la géopolitique. Et enfin, peut-être aussi, le fait que, en 2008, il y a eu cette crise alimentaire. On a beaucoup parlé à ce moment-là d'achat foncier, d'accaparement foncier, de land grabbing, c'est selon. Et je trouvais que il y avait beaucoup de commentaires, mais un petit peu sur l'actualité, sans se plonger dans les temps longs de cette histoire foncière. Voilà, je crois que c'est un peu toutes ces raisons qui font que j'ai voulu rappeler cette importance de la terre, avec ce que vous dites aussi, le basculement vers l'urbanisation en 2007, puisqu'on est devenu une société, un monde urbanisé, plus de 50% à partir de 2007.
Voilà, c'est tout ça. De toute façon, avec effectivement la géopolitique, il est de toute façon constamment question de territoire. Alors, la terre au cœur de séquences historiques contemporaines, comment l'histoire a-t-elle créé les inégalités d'accès à la terre qui sont, comme vous le dites, si porteuses de dérives politiques du XXe siècle à aujourd'hui? Et comment finalement l'inégalité foncière a pu participer à la création de certains traits de l'histoire du XXe siècle? Jusqu'à aujourd'hui, comment intervient-elle dans la violence politique depuis l'insurrection, voire la révolution, jusqu'à l'autoritarisme? Alors, peut-être pour répondre à toutes ces questions, on peut reprendre le schéma qui est le vôtre dans cet ouvrage, continent par continent. L'Europe, peut-être, pour commencer, Pierre Blanc.
Oui, je crois qu'il faut commencer par l'Europe. Enfin, c'est ce que je propose dans le livre, effectivement, parce que je pense que c'est dans cette Europe que s'est produit en premier ce que j'appellerais un moment agropolitique. Autrement dit, un moment où un certain nombre d'instabilités, de tensions, de dérives autoritaires et autres figures politiques interviennent dans un moment où les sociétés sont rurales, où la question sociale est avant tout une question paysanne. Donc évidemment, en Europe, ça se pose plus aujourd'hui comme ça s'est posé au début du XXe siècle. Et on a eu un moment agropolitique très fort au XXe siècle en Europe, de l'Ouest, mais aussi de l'Est. Alors si je dis quelques mots de l'Ouest, eh bien c'est surtout en Europe méditerranéenne. l'Espagne, le Portugal, l'Italie, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de revenir, dans le livre, je ne reviens pas aux structures agraires laissées par les Romains, mais ce que, en fait, la grande propriété d'une part, et des conditions de vie précaires pour la multitude des paysans qui constituent la majorité des sociétés à ce moment-là, cette combinaison est très forte donc au début du XXe siècle en Europe méditerranéenne. Pourquoi ? Parce que certes, la grande propriété était très présente dans cette région dès la reconquête sur les Arabes en Espagne, au Portugal, avant même la réunification italienne en Italie. Mais au XIXe siècle, toutes ces grandes propriétés d'anciens régimes ont été disloquées. Donc on aurait pu penser que les paysans auraient été dotés beaucoup mieux qu'ils ne le furent. Mais en fait, cette dislocation des domaines de l'ancien régime s'est faite au profit d'anciennes notabilités ou d'une bourgeoisie émergente.
Alors vous faites bien le distinguo, j'entends Pierre Blanc, entre Europe du Nord et Europe du Sud, hein, oui. Finalement, avec ces grandes propriétés terriennes qu'on appelle le latifundio en Espagne et pas loin au Portugal. Qu'est-ce que l'on peut dire finalement des effets politiques de ces inégalités ?
Alors, pour ce qui est donc de l'Europe méditerranéenne, en insistant encore sur le fait que c'est la plus forte incandescence, on pourra peut-être dire quelques mots de la Russie tout à l'heure, mais oui, ça a produit des séquences que l'on connaît, autoritaires, en Italie, en Espagne, au Portugal. Il est clair que, sans vouloir exagérer le schéma, après la Première Guerre mondiale, en Italie en particulier, on retrouve une situation avec, donc, d'un côté, un pouvoir adossé à la grande propriété foncière, et puis, d'un autre côté, une multitude de paysans sans terre, de journaliers et autres statuts. Et, au sortir de la Première Guerre mondiale, il y a deux années, le Biennio Rosso, c'est-à-dire les deux années rouges, révolutionnaires, qui mettent en lumière un mouvement paysan très fort, articulé à la mouvance communiste et catholique. Et ça va produire, chez certaines grandes familles, ce soutien à un pouvoir autoritaire à partir de 1922, le fascisme, qui est clairement un fascisme agrarien.
Alors, juste pour bien comprendre, Pierre Blanc, la dérive autoritaire, elle est là pour protéger les intérêts de ceux qui étaient bénéficiaires de ce système.
Oui, on peut dire cela, même si c'est multifactoriel, mais c'est vrai que, par exemple, dans le cas de l'Italie, il y a une première tentative de réforme agraire en 1921, de redistribution de la terre, et en 1922, il y a prise du pouvoir par les fascistes. Mmh. Et un certain nombre des grands propriétaires se sont bien retrouvés dans ce pouvoir fasciste mussolinien jusque donc en 1943. Et on peut faire la même lecture avec l'Espagne, où avec la Seconde République, on a eu le lancement d'une réforme agraire en 1932, 1933, victoire de la droite espagnole qui annule progressivement la réforme agraire, puis quand même dans ce contexte social où la question sociale est avant tout la question paysanne, en 1936, l'Espagne donne la victoire aux républicains qui vont accélérer la réforme agraire. Cette accélération de la réforme agraire, qui est massive à ce moment-là, va être arrêtée, on le sait, à partir de 1939, par Franco. Donc on peut faire une lecture sans surjouer la lecture en termes de lien entre cette histoire politique et la question foncière.
Alors, même chose avec le Portugal, on parlera ensuite de l'Europe orientale.
Oui, c'est tout à fait la même chose, dans un contexte un petit peu différent, mais avec là aussi une grande propriété foncière, particulièrement dans le sud du Portugal, dans la langue Tejo. Et on a là, après la prise, avec la prise du pouvoir par Salazar, on a clairement le signal qu'on ne peut pas aller plus loin dans la réforme agraire. Et puisqu'on parle de Salazar, Mussolini et Franco, les trois vont avoir à peu près les mêmes dispositions en termes de questions foncières, parce que l'équilibre à trouver pour ces pouvoirs est de ne pas insatisfaire leur clientèle, autrement dit plutôt la grande propriété foncière, et en même temps de solutionner cette soif de terre. Alors ça va être solutionné par la colonisation de nouveaux espaces. De nouveaux espaces en Italie, en Espagne, un peu au Portugal. Ça va être solutionné en partie par l'envoi de ces colons en Libye pour l'Italie, par exemple, au Portugal, au Mozambique, à l'Angola, dans une moindre mesure. Mais jamais en touchant à la grande propriété, hein, puisqu'il s'agit de ménager ces familles qui soutiennent le régime. Donc pendant plusieurs décennies, ces pouvoirs ont cherché à solutionner la Terre sans... La question de la Terre, pardon, sans toucher vraiment à leur clientèle.
Alors, Pierre Blanc, dans tout cela, où se situe la France, finalement, entre cette Europe méridionale et cette Europe du Nord ?
Alors, la France n'a pas, à mon avis, de séquence agro-politique dans les années 20, 30 ou 40, comme les trois pays précédemment cités. L'épisode de Vichy n'est pas du tout lié à la question de la Terre. La question de la Terre a été partiellement réglée avant les années 20. Alors, c'est vrai qu'il y a eu la Révolution française, 1789, et là, ces grandes propriétés de l'Ancien Régime ont été disloquées. Notamment après l'épisode du Grand Hiver en juillet 1789, et puis l'abolition des privilèges le 4 août qui suit. Donc on a une redistribution de la terre. Sauf que cette terre a été reprise par un secteur émergent qui est plutôt la bourgeoisie. Donc là, on est sorti de l'Ancien Régime, mais pour autant les paysans n'ont pas retrouvé ou trouvé le bien foncier qu'ils auraient espéré. Et les paysans n'ont pas vraiment soutenu par la suite la République. Ils se sont retrouvés plutôt dans les forces pro-Empire. Et ça, Gambetta en avait bien conscience, qui, à la fin du XIXe siècle, s'est dit qu'il fallait donner la terre aux paysans, en tout cas autant que faire se peut, parce que c'était pour lui une façon de faire... Il disait, il faut faire chausser aux paysans les sabots de la République. Il disait aussi... Si les meilleurs pour pouvoir défendre les frontières d'un pays, ce sont ceux qui sont habitués à défendre les bornes de leur terre. Donc il a voulu faire de ces paysans des propriétaires. Donc il a accompagné, notamment avec un encadrement économique, l'appropriation par la paysannerie partielle. La grande propriété n'a pas disparu totalement, bien sûr. Et ensuite, il y a eu un autre épisode qui a beaucoup marqué, qui a limité la soif de terre, c'est la guerre 14-18.
Avec l'annexion par l'Allemagne.
Voilà. Et puis tous ces jeunes paysans, fils de paysans, qui sont morts au front, et donc ça a diminué la faim de terre. Voilà, donc on n'a pas la même intensité agropolitique par la suite, même si la question est restée posée.
Écoutez RFI Géopolitique.
Alors, on va continuer de balayer, Pierre Blanc, si vous le voulez bien, tout en restant en Europe, puisque vous l'avez évoqué. On a parlé de l'Europe méditerranéenne, l'Europe orientale, toujours avec cette même problématique, inégalité d'accès à la terre comme moteur de l'histoire. Qu'est-ce que l'on peut dire en ce qui concerne l'Europe orientale sur les raisons de ces inégalités et les effets politiques, Pierre Blanc ?
Alors, en Europe de l'Est, on est dans un contexte différent. Alors, quand je dis l'Europe de l'Est, elle commence à l'Allemagne de l'Est. Alors, en sachant qu'il y a des contextes qui varient en fonction des lieux, mais on a assisté au 19e siècle, 18e, 19e siècle, à ce qu'on a appelé l'apparition d'un néo-servage. C'est-à-dire que les paysans qui étaient progressivement libérés de leurs propriétaires en Europe de l'Ouest par le métayage, le fermage, eh bien, ont été repris en main, entre guillemets, en Europe de l'Est, avec donc ces grands propriétaires qui les ont attachés à la terre, avec un retour de la corvée, par exemple. Parce que dans cette Europe de l'Est, riche de terres céréalières, ces propriétaires avaient bien perçu le fait que le monde allait être demandeur de céréales. Et donc, ils ont réinvesti dans la terre et en fixant ces paysans à leur propre terre. Voilà donc ce qu'on appelle le néo-servage, qui donne plusieurs figures selon les pays. En Allemagne, c'est le Junker. En Hongrie, Roumanie, c'est plutôt le boyard ou le grand propriétaire en Russie. En tout cas, dans toute cette région, on a une réappropriation, si je puis m'exprimer ainsi. Et ça va produire des événements, enfin ça va contribuer à produire des événements différents en fonction des pays. Et peut-être le plus connu, c'est l'instabilité russe. L'instabilité russe, qui est multifactorielle, bien sûr, mais dès la fin du XIXe siècle, il y a une instabilité dans les campagnes en Russie, avec, même si Alexandre II a aboli le néo-servage, il n'empêche que la grande propriété n'a pas disparu en Russie. Les paysans sont demandeurs de terres, ils sont très pauvres. Ils commencent à être, pour certains, conscientisés politiquement, parce que la précarité ne fait pas tout, il y a la conscience politique. Qui doit prendre
qui vient à eux, qui vient, cette qui conscience vient politique. Elle
absolument.
Ne l'est pas chez
elle
eux,
elle
chez vient
eux.
À eux.
Elle vient rarement de chez eux, elle vient plutôt d'ailleurs. C'est l'idéologisation qui va produire les mobilisations paysannes. Et en 1905, la première révolution en Russie est plutôt une révolution paysanne. Et donc, on commence à lâcher du lest auprès des paysans russes à ce moment-là, mais c'est pas suffisant. Et en 1917, il est clair que, même si ce ne sont pas les seuls intervenants, acteurs de la révolution, bien sûr, il y a les ouvriers, il y a les mutins, les militaires, mais les paysans sont très présents dans cette révolution, et Lénine ne l'a pas tout à fait compris d'emblée. Il va se voir finalement imposer la question paysanne dans son agenda. Et évidemment, ça donnera toutes les politiques agraires qui suivent. Voilà un exemple. Mais on pourrait donner d'autres exemples. Mais peut-être qu'il ne faut pas être ici exhaustif.
Oui, tout à fait. Alors, vous le dites, l'Europe, c'est elle qui s'est le plus projetée sur les autres continents en y reconfigurant souvent les structures agraires et en y approfondissant les inégalités foncières. Vous le dites aussi, l'Europe est le lieu où le lien entre la Terre et l'histoire politique s'est atténué en premier. On passe aux Amériques, Pierre Blanc, très influencé par cette projection européenne. Vous écrivez que la stabilité et la puissance des États-Unis viennent pour une part d'une Terre distribuée de façon égalitaire, alors égalitaire entre blancs venus d'Europe, parce que on ne peut pas oublier la page indienne et comment tout cela s'est passé au détriment des populations indiennes qui étaient présentes, mais ça c'est pas votre propos dans l'ouvrage. Donc distribution de terres de façon plus ou moins égalitaire, quand la répartition en Amérique latine a été terriblement inégalitaire, et tout cela ayant entravé par ailleurs son potentiel et déclenché toutes les instabilités qu'elle a connues jusqu'à tout récemment. L'Amérique latine, l'exemple colombien, est un exemple précis. Quelques mots sur les États-Unis.
Je crois qu'on peut dire que la distribution égalitaire de la terre au XIXe siècle, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, a contribué à la stabilité de la démocratie blanche américaine, à l'exclusion de tous les noirs des plantations du Sud et évidemment tous les Indiens qui ont été sacrifiés. Si je dis ça, c'est parce qu'effectivement, en 1862, Lincoln s'est engagé donc pour donner la terre de façon très égalitaire. On était en pleine guerre de sécession et cette loi foncière prévoyait la distribution de quelques 64 à 65 hectares par famille d'agriculteurs sur tout le vaste État américain qui était en cours de colonisation. Cette terre a été bien distribuée, en tout cas entre les gagnants, les blancs, au détriment de ceux qu'on a fait disparaître et de ceux qui n'avaient pas de statut, je pense aux noirs. Donc il est clair que cette distribution égalitaire et l'absence de grande propriété n'a pas nourri, comme dans tous les autres continents, cette dialectique entre grands propriétaires adossés à un pouvoir et petits paysans souvent disqualifiés. Il est impossible de retrouver trace. On ne peut pas faire cette même lecture aux États-Unis et donc ça a conforté la démocratie américaine et sans doute la puissance agricole américaine, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire évidemment très rapidement sur les États-Unis. Bien sûr, il y aurait des nuances à introduire. Et au Canada, d'ailleurs, ça a fonctionné aussi dans les grandes plaines. Mmh. On a fait cette distribution très égalitaire de la terre. Alors que en Amérique latine...
Alors, pour l'Amérique latine, Pierre Blanc, on l'évoquera dans la deuxième partie de l'émission, si vous le voulez.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard historique, politique, voire géopolitique de la Terre, à l'occasion de la parution de l'ouvrage Terre, pouvoirs et conflits, une agro-histoire du monde, paru aux presses de Sciences Po, écrit par Pierre Blanc, qui est enseignant à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux, également chercheur au laboratoire Les Afriques dans le monde et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. Pierre Blanc, nous avons abordé la thématique de la Terre au cœur de séquences historiques contemporaines. Comment l'histoire a-t-elle créé les inégalités d'accès à la Terre? Nous avons parlé de l'Europe. Nous étions sur le continent américain à la fin de la première partie de l'émission. Nous avons évoqué la question des États-Unis et du Canada. L'Amérique latine, une répartition plutôt inégalitaire de la Terre en Amérique latine qui a entravé son potentiel et déclenché beaucoup d'instabilité.
C'est tout le contraire de l'Amérique du Nord. C'est assez impressionnant d'ailleurs ce contraste, et ça a des répercussions encore aujourd'hui, mais on y reviendra peut-être. Mais oui, la terre a été distribuée de façon très inégalitaire. Quand les Espagnols et les Portugais ont conquis ce vaste continent, les royaumes ont investi sur des notabilités à qui on a donné d'abord l'usufruit de grandes circonscriptions foncières qui sont devenues des propriétés foncières. On est passé des encomiendas aux haciendas. C'était une façon de contrôler le territoire et de gratifier les proches des régimes portugais et espagnols. Sauf qu'en créant ces structures, on a créé donc des élites foncières qui ont fait des affaires, notamment dans l'élevage en particulier. Et à côté de ça, beaucoup donc de Sud-Américains et d'Américains des pays de l'Amérique centrale, pardon, des habitants d'Amérique centrale, le plus souvent des paysans venus d'Espagne, venus d'ailleurs, qui étaient sans terre ou journaliers. Donc on a un cas de figure qui ressemble à d'autres régions du monde. Et au 19e siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces élites foncières et économiques ont voulu prendre leur liberté, ont voulu s'émanciper par rapport aux couronnes espagnoles et portugaises, et ça a donné lieu à tout le mouvement d'indépendance du début du 19e siècle, qu'il faut relire aussi en termes fonciers. Et puis, ces élites, doublées d'autorités militaires de plus en plus fortes au 19e siècle, à faveur des guerres entre pays de cette région, ces élites foncières et ces élites militaires se sont associées assez souvent dans la plupart de ces pays d'Amérique centrale et du Sud. S'ajoutent à cela, surtout en Amérique centrale, des grandes compagnies plutôt américaines qui vont compléter ce duo militaire et grande famille. Je pense par exemple à la United Fruit. Donc au XXe siècle, on a une structure agraire extrêmement déséquilibrée dans toute cette région. Aucun pays ne fait exception, si peut-être un peu le Costa Rica, mais on ne va pas en parler maintenant.
Qui est la Suisse de l'Amérique latine.
Voilà, qui est la Suisse de l'Amérique latine. Mais à l'exception de ce pays, le Paraguay avait essayé de redistribuer la terre au XIXe siècle avec le général Francia, mais il avait eu une politique de puissance. Il savait que la puissance passait par la distribution égalitaire de la terre. Le Paraguay était devenu la grande puissance du XIXe siècle en Amérique latine, et ça lui a porté malheur puisque sa puissance a fait ombrage à ses voisins qui ont avec quelques complicités en Europe, chercher à le démanteler. Mais partout ailleurs, c'est une structure très inégalitaire. Et ça a des répercussions jusqu'à aujourd'hui.
Alors, c'est la Colombie.
La Colombie. C'est un pays dont l'histoire politique récente d'une violence inouïe, avec une guerre civile, la première entre 1948 et 1960, la Violencia, qui a fait 300 000 morts à peu près. C'est une guerre paysanne. On peut la qualifier ainsi. Donc, dans ce contexte de structure ou de polarisation foncière. Et la création des FARC ne sont, et d'autres guérillas d'ailleurs, ne sont jamais que l'émanation de ces paysans sans terre ou paupérisés. Et plutôt que de faire des réformes agraires, notamment encouragées par les États-Unis dans les années 60, qui étaient inquiets de voir des foyers de subversion en Amérique qui pouvaient être pro-marxistes, les États-Unis, avec Kennedy, ont poussé à des réformes agraires. Alors, la Colombie, comme beaucoup d'autres pays alliés des États-Unis, ont traduit cette réforme agraire en transfert de paysans. Pour éviter de redonner la terre, ont transféré ces paysans, les ont poussés à aller dans des zones vierges, en particulier dans la forêt tropicale, totalement hostile aux vies humaines. Et c'est là que ces paysans, encadrés par ces guérillas, notamment les FARC, se sont adonnés à la culture de drogue. Donc on peut relier drogue, violence, éther, particulièrement dans le cas colombien, mais on pourrait faire des associations en ces termes ailleurs dans ce continent.
Les incitations du président américain Kennedy, c'est quelque chose d'assez méconnu dans l'histoire contemporaine. Pierre Blanc, les Américains ayant bien compris, vous l'avez évoqué dans la première partie de l'émission, combien il était important d'avoir une égalité autant que faire se peut dans la distribution des terres. Ils avaient compris, ils savaient aussi que c'était source d'instabilité, donc ils ont essayé en tout cas d'inciter d'autres pays.
Effectivement, je ne sais pas s'il s'est souvenu, il n'y a pas de trace que son pays a été constitué sur l'égalité d'accès à la terre, mais en tout cas, il y avait une lecture géopolitique claire pour éviter les subversions dans des pays qui étaient majoritairement ruraux à ce moment-là, et encore dans certains pays aujourd'hui, eh bien, il fallait redistribuer la terre. Et donc, les États-Unis ont créé cette alliance pour le progrès. Et les pays alliés des États-Unis ont décliné cette alliance pour le progrès de façon très différente. Peu ont fait vraiment des réformes agraires. Il y a des pays comme le Japon, en Asie, qui ont fait la réforme agraire totale dès 1946, qui a contribué à la stabilisation d'un pays qui était très rural, avec une vraie question paysanne. Voilà, donc c'est un mouvement assez fort, mais encore une fois, ça a été interprété très différemment selon les cas.
Alors l'Asie, elle a subi, dites-vous, les mêmes assauts coloniaux, mais avec moins d'importance que les Amériques. Pour autant, elle a une histoire à forte résonance agraire. Les manifestations sont encore à l'œuvre et vous citez le Parti communiste chinois porté par la révolution agraire qui est encore au pouvoir aujourd'hui en Chine, comme chacun sait, Pierre Blanc.
Oui, alors l'Asie, c'est un vaste continent où là aussi, on a assisté à une montée en puissance de ce qu'on appellerait aujourd'hui une privatisation au XIXe siècle de la terre, parce que la terre n'était pas toujours privatisée, soit pour des raisons endogènes, quand les pays n'étaient pas colonisés. Je pense au Japon, qui a privatisé sa terre après le début de l'ère Meiji. Et cette privatisation de la terre s'est faite, alors adossée aux dynamiques économiques, il y a des perdants et des gagnants. Et certains y ont gagné, notamment en pratiquant l'usure. Et beaucoup de paysans se sont trouvés endettés, ont dû se défaire de leur terre, qui a donc permis d'abonder des grands propriétaires japonais. Donc là, on est sur un cas endogène. Mais partout ailleurs, on est sur des dynamiques endogènes doublées de dynamiques exogènes, c'est-à-dire la colonisation a créé de l'inégalité à d'accès à la terre. C'est particulièrement vrai dans l'ancienne Indochine, le Vietnam aujourd'hui, avec la présence française, notamment sur le delta du Mékong, puisque c'était une colonie, alors que l'Annam et le Tonkin n'étaient pas des protectorats. Donc la France a poussé la privatisation, notamment dans ce sud du Vietnam actuel. Donc là, on a une privatisation qui vient de l'extérieur. Aux Philippines, on a une privatisation aussi qui vient de l'extérieur, en tout cas sur l'essentiel des îles, puisque ça a été le fait des Espagnols qui ont reproduit le système de l'Amérique du Sud avec des grandes haciendas. Voilà, mais on n'a pas besoin de tout développer. Et ça produit au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui des instabilités politiques. Il y a une figure très connue, c'est le Parti communiste chinois, disais. Mao a été très conscientisé ou très sensible à la question paysanne. Dans le Hunan, il y a des écrits. Le Parti communiste écrit en 1920, mais en 1927, il fait tout un travail sur cette région. Il décrit le sort des paysans et ça sera une priorité dans l'agenda politique du Parti communiste chinois, en sachant que la révolution chinoise communiste, en tout cas, est plutôt d'extraction paysanne. Alors, les paysans ne sont plus majoritaires en Chine, encore qu'ils sont très nombreux, mais le Parti communiste chinois est toujours là. Après, il y a d'autres pays qui montrent une actualité de cette question, c'est l'Inde, on perd de vue, mais il y a des groupes maoïstes qui se sont créés dans les années 60 sur cette question foncière dans certains états de l'Inde, puisque c'est un pays fédéral. Certains états de l'Inde ont fait des réformes agraires quand d'autres ne les ont pas faites.
Alors, proche de l'Inde, c'est le cas aussi du Sri Lanka.
C'est le cas du Sri Lanka, c'est le cas du Népal. Mmh. Vous avez là des insurrections de type maoïste encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et puis le cas le plus, peut-être, finira dessus, ce sont les Philippines. Les Philippines où là, on a la question de la terre explique à la fois les mobilisations marxistes dans l'essentiel de l'archipel, mobilisation marxiste des groupes qui ont signé un accord de paix en 2012, donc c'est récent. Et ça explique également ce qui se passe dans l'île au sud, la seule qui est musulmane, l'île de Mindanao, où un nationalisme sur cette île s'est a émergé dans les années 60-70, qui est devenu un mouvement islamiste puis djihadiste. Et là, il y a évidemment aussi un soubassement foncier. Pourquoi ? Parce que, notamment Marcos, pour ne pas régler la question agraire, mais pour satisfaire l'injonction américaine, plutôt que de faire la réforme agraire, en prenant sur ses propres clientèles, à pousser les paysans de tradition catholique à se rendre sur cette île de Mindanao islamique. Et ça a contribué au nationalisme, puis à l'islamisme, puis au djihadisme, avec le mouvement Abu Sayyaf qui a fait allégeance à Daesh. Donc il y a une actualité.
Mmh. Alors on poursuit assez rapidement, parce qu'il nous reste 10 minutes pour cette émission sur la Terre. Pierre Blanc, alors deux territoires, je ne vais pas parler de continents, qui nous restent à traiter, importants aujourd'hui, avec une actualité très forte, c'est le Moyen-Orient et l'Afrique. On commence par le Moyen-Orient, que vous prenez dans votre ouvrage comme un continent à part entière. Une région qui constitue un épicentre de la conflictualité internationale, où la question foncière demeure, vous le dites, une variable certaine. La genèse de l'inégalité foncière y est spécifique, et elle a été une fabrique du politique. Alors, ce sera intéressant de comprendre pour comment et pourquoi. Alors, vous posez la question de savoir si la dimension agropolitique de l'histoire récente du Moyen-Orient est ou serait-elle occultée par le trop-plein de causalité des violences politiques. Ça, c'est un peu compliqué. Mais surtout, il y a un aspect que vous reprenez et qui, moi, me paraît tout à fait intéressant. Vous posez la question de savoir si le facteur religieux n'enveille pas trop les analyses, comme le suggère d'ailleurs Georges Cormes, personnalité libanaise qui a déjà été invitée dans Géopolitique, qui appelle à une analyse profane des conflits. Rapidement, Pierre Blanc, le Moyen-Orient.
Alors, je vais essayer d'être rapide et je salue l'allusion à Georges Cormes. Oui, il faut avoir une analyse profane des conflits et je crois que la question de la Terre doit être convoquée très rapidement, sans entrer dans les détails. Là aussi, au XIXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, il y a eu des processus de privatisation, immatriculation de la terre portés par les Ottomans qui ont donné lieu à une polarisation foncière avec l'apparition de cette très grande propriété et ce mal-être paysan qui était la question sociale, y compris surtout pendant la période du mandat français et britannique. Et quand ces pays sont devenus indépendants dans les années 50, je pense à, par exemple, même avant, hein, l'Égypte qui était indépendante avant, la Syrie, l'Irak, enfin tous ces États créé, à l'exception de l'Égypte, se voyait en face de cette question foncière. Évidemment, c'est frustrant d'aller très vite, mais le basculement politique vers des tonalités nationalistes dans les années 50-60 doit se comprendre aussi avec cet arrière-plan de la question foncière. Le parti Baas, c'est un parti agrarien. Je peux le qualifier ainsi. Nasser a fait de la terre, la question de la terre, une priorité. Et si on élargit le regard, en Iran aussi, on a redistribué la terre dans un contexte un peu différent, encouragé là aussi par l'Alliance pour le progrès américaine en 1963, donc avec le Shah d'Iran. Voilà, ça a été un élément important. Et il y a des pays, donc on a fait la réforme agraire en Égypte, en Syrie, en Irak, puis on a fait des contre-réformes agraires par la suite, ça a donné lieu à des instabilités politiques jusqu'à l'Égypte dans les années fin du XXe siècle. Il faudrait d'ailleurs s'interroger sur le lien entre mouvement islamiste et djihadiste en Égypte et cette contre-réforme. Et puis il y a des pays où on n'a pas fait de réforme agraire, parce qu'il n'y avait pas d'État, la Palestine, parce qu'on ne voulait pas la faire, pays trop fragile, au Liban, et puis dans sa composition. Et là, on peut, c'est ce que j'essaie d'expliquer, faire un lien entre la création du Hezbollah libanais et cette question d'une paysannerie précaire. Et en Palestine, il n'y a pas eu de réforme agraire, il n'y a pas eu d'État. Évidemment, avant 1948, la terre qui était possédée par des grands propriétaires arabes de Syrie et du Liban, pour l'essentiel, ont vendu leurs terres au Fonds national juif donc dans ces années-là. Et c'est après 1948, Israël, et surtout après 1967, c'est par la force que ce pays a pris la terre. Voilà ce qu'on peut dire sur le Moyen-Orient.
Très rapidement, et j'en suis désolée, parce qu'il est évident que je pense que cette émission aurait pu comporter plusieurs volets. L'Afrique, Pierre Blanc, considérée comme un grand réservoir foncier par un monde en appétit de terre. Ce continent combine une grande inégalité foncière, notamment au Maghreb et en Afrique australe, où le colonialisme a imposé sa marque au sol et a une certaine égalité d'accès à la terre, là où les droits coutumiers basés sur l'usage collectif de la terre ont pu continuer à prévaloir. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais les assauts du land grabbing, qui est l'accaparement de terres qui ne sont pas seulement d'origine étrangère, pourraient constituer une nouvelle source d'inégalité foncière et avec elle de la violence politique, comme d'ailleurs dans le reste de l'Afrique et sur les autres continents.
Alors, il y a deux situations. Il y a l'Afrique des extrémités, l'Afrique du Nord, Et puis il y a l'Afrique, ou le Maghreb et l'Afrique australe. Question qui s'est beaucoup posée en Afrique du Nord, surtout en Algérie. Il faudrait réinterroger le processus, la guerre d'indépendance avec ce prisme de la question agraire. Et c'est une question qui reste posée au Maghreb. Et puis à l'Afrique australe, là aussi, c'est pas une marque française, c'est une marque hollandaise et britannique. Et il y a une actualité très forte de cette question foncière. Aujourd'hui, en Afrique du Sud, on a voulu régler la question avec Mandela, qui se voulait le garant de la nation arc-en-ciel. Il n'a pas voulu défaire la grande propriété blanche. Il a voulu ménager. Et aujourd'hui, l'un de ses successeurs, Cyril Ramaphosa, est en train de remettre en question cette timidité choisie par Mandela, parce que ça reste une question centrale posée à son pays. Donc voilà un pays qui n'a pas vraiment accéléré le transfert de terres des Blancs vers les Noirs, à contrario du Zimbabwe, qui a violemment fait la redistribution et qui a donné lieu à l'effondrement du Zimbabwe, je pense à Robert Mugabe, parce que les conditions du transfert n'ont pas été bonnes et ça a été surtout une vaste entreprise de prédation. Ce ne sont pas les Noirs du Zimbabwe qui ont profité de la terre, ce sont les clientèles donc proches du pouvoir de Mugabe. Donc on a deux cas voisins, mais à la fois très distants sur le plan du traitement politique. Et puis vous avez, au-delà de cette Afrique des extrémités, il y a tout ce qui est l'Afrique de l'Ouest et centrale, où il y a la terre n'a pas été appropriée par une colonisation de peuplement. On est resté sur du droit coutumier. Là-dessus, dans les années 60, beaucoup d'États ont domanialisé des terres. Donc il y a une concurrence. Les terres sont à la fois en droit coutumier et à la fois derrière, il y a l'État. Et on assiste parfois, avec des États qui ne sont pas tout à fait recommandables, à des deals passés entre ces États et certains investisseurs autochtones ou allochtones qui conduisent donc à priver certains de ces paysans qui travaillent en droit coutumier et qui se trouvent déguerpis pour, par exemple, des projets plus ou moins importants de culture portés, encore une fois, par des autochtones, parfois, ou des allochtones. Alors là, je renvoie à toute la question du landgrabbing. Et pour finir sur l'Afrique, les bailleurs, les organisations internationales, la Banque mondiale poussent à l'immatriculation de la terre, à la privatisation pour protéger ces paysans, pour éviter le déguerpissement. Mais l'histoire montre que pour que ces paysans puissent garder la terre, il faut les accompagner par des politiques agricoles, parce que tôt ou tard, ces paysans vont être tentés de vendre la terre et de partir ailleurs.
Alors ça, c'est une notion très importante que nous avons évoquée récemment dans une émission sur l'agriculture et l'alimentation. Il est évident, Pierre Blanc, qu'en Afrique, la disparition de l'agriculture familiale serait une catastrophe. C'est un problème de gouvernance, un problème de responsabilité des États. Alors, où se situe-t-on aujourd'hui, après avoir produit de la concentration, puis de l'instabilité, l'égalité foncière, s'est-elle généralisée dans le monde? C'est une question. Ou au contraire, la reconcentration s'impose à nouveau partout, ce qui génère aussi des craintes pour la stabilité politique, surtout dans les sociétés encore rurales, en guise de conclusion, Pierre Blanc.
On assiste avec plus ou moins d'intensité et pour des raisons très différentes à un phénomène de reconcentration foncière. Je ne vais pas rentrer dans les causes, on n'a pas le temps, mais avec des effets qui sont évidemment différents d'une région à l'autre. Une reconcentration foncière en Europe peut poser des problèmes en termes d'équilibre de territoire et autres, mais sur le plan de l'histoire, de l'instabilité, ça pose pas tant de problèmes quand on est à une population agricole de 3% ou de moins de 3%, alors que une reconcentration en Amérique latine, dans certains pays d'Asie ou en Afrique, quand on est dans des pays où les paysans, ou ce qu'on qualifie de paysans, sont encore plus près de 80%, voire au-delà, eh bien la reconcentration foncière pose d'autres problèmes majeurs et des problèmes qui vont se poser à l'Europe indirectement, c'est-à-dire cette reconcentration, si elle se fait au détriment, comme vous le dites, de ces agricultures qualifiées de familiales, ça peut produire les exodes de demain, comme c'est déjà en partie le cas.
Merci Pierre Blanc. Je rappelle que vous êtes enseignant à Bordeaux Sciences Agro et à Sciences Po Bordeaux, également chercheur au laboratoire Les Afriques dans le Monde et rédacteur en chef de la revue Confluence Méditerranée. Votre dernier ouvrage, donc, Terre, pouvoirs et conflits, une agro-histoire du monde, paru aux presses de Sciences Po. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons de la diplomatie des musées.